Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 9, esclavage sans soumission, émancipation sans liberté. Troisième partie. S'il est un homme, né en esclavage, qui réalisa le souhait insatisfait de millions d'esclaves, c'est Frédéric Douglass. Esclave envoyé à Baltimore pour y travailler comme serviteur et comme ouvrier dans les chantiers navals, il s'arrangea pour apprendre à lire et à écrire. En 1838, âgé de 21 ans, il s'enfuit vers le nord où il devint le noir le plus célèbre de son époque. Il fut successivement professeur, journaliste et écrivain. Dans son autobiographie, Narrative of the Life of Frederick Douglass, il revient sur ce qu'il pensait dans son enfance de sa condition d'esclave. Pourquoi suis-je esclave? Pourquoi certains hommes sont-ils esclaves quand d'autres sont maîtres? Y eut-il jamais une époque où cela n'existait pas? Comment cette relation a-t-elle commencé? Une fois la question posée, je ne fus pas long à trouver la réponse. Ce n'était pas la couleur, mais le crime, pas Dieu, mais l'homme, qui étaient les véritables causes de l'esclavage. Je découvris tout aussi rapidement une autre vérité essentielle. Ce que l'homme a fait, l'homme peut le défaire. Je me souviens distinctement avoir été, même alors, extrêmement marqué par l'idée d'être un jour un homme libre. Cette certitude réconfortante était un rêve inhérent à ma nature et représentait une menace constante pour l'esclavage. Un de ces rêves que toute la puissance de l'esclavage était incapable de faire taire ou d'étouffer. La loi sur l'esclave fugitif fut votée en 1850 pour récompenser les États du Sud d'avoir accepté que les territoires gagnés par la guerre mexicaine, en particulier la Californie, rejoignent l'Union en tant qu'État non esclavagiste. Cette loi permettait aux propriétaires d'esclaves de récupérer leur ex-esclave en fuite, voire de s'emparer de Noirs qu'ils prétendaient fugitifs. Les Noirs du Nord organisèrent l'opposition à cette loi sur l'esclavage fugitif, dénonçant le président Fillmore qui l'avait signé et le sénateur Daniel Webster qui l'avait soutenu. L'un d'entre eux s'appelait G.W. Logan, fils d'une esclave et de son propriétaire blanc. Après s'être enfui sur le cheval de son maître, il était allé au collège et était devenu pasteur à Syracuse dans l'État de New York. Lors d'une réunion organisée en 1850 dans cette ville, il prit la parole en ces termes. « Le temps est venu de passer de la soumission au défi et de dire à M. Fillmore et à M. Webster, s'ils se proposent réellement d'appliquer cette loi, de lâcher leur limier après nous. C'est le ciel qui m'a donné ma liberté et avec elle le devoir de la défendre. Je ne respecte ni ne crains cette loi. Je ne lui obéirai donc pas. Elle fait de moi un hors-la-loi et je lui renvoie l'appareil. Je ne vivrai pas en esclave et, si on employait la force pour me remettre en esclavage, je prendrais mes dispositions pour affronter ce moment en homme. Votre décision, ce soir, de résister à cette loi, va faire souffler un vent de liberté qui, après avoir abattu les barrières des partis, soufflera partout à travers le Nord. Cet acte de noble audace devait inévitablement éclater quelque part, et Dieu fasse que Syracuse soit ce lieu d'où il fera entendre sa voix terrible partout à travers le pays. L'année suivante, ce vœu fut exaucé. Un esclave fugitif, nommé Jerry, fut capturé et jugé. La foule, munie de leviers et de béliers, fit irruption dans la salle du tribunal et obligea les officiers de police à libérer Jerry. Logan s'installa définitivement à Syracuse, un des nœuds stratégiques du chemin de fer souterrain. Il aurait permis à près de 1500 esclaves de fuir vers le Canada. La parution de ses souvenirs d'esclavage attira l'attention de son ancienne propriétaire qui lui écrivit pour lui ordonner de revenir ou de lui envoyer $1000 d'indemnité. La réponse de Logan fut publiée dans le journal abolitionniste The Liberator. Madame Sarah Logg, vous dites qu'on vous offre de m'acheter et que vous serez obligé de me vendre si je ne vous envoie pas 1 000 $ d'indemnité. Dans la foulée et pratiquement dans la même phrase, vous me dites « Vous savez que nous vous avons élevé comme nos propres enfants, madame. Avez-vous élevé vos enfants en fonction du marché? Les avez-vous élevés pour le fouet? Les avez-vous élevés pour être amenés couverts de chaînes? Honte à vous. En outre, vous dites que je suis un voleur parce que j'ai pris votre vieille jument. Finirez-vous par comprendre que j'avais plus de droits sur cette vieille jument, comme vous dites, que Manasseh, Log n'en avait sur moi? Et qui a commis le péché le plus grave, de moi qui ai volé son cheval, ou de lui qui a volé ma mère au berceau pour me voler moi-même ensuite? Finirez-vous par comprendre que les droits de l'homme sont mutuels et réciproques, et que si vous prenez ma liberté et ma vie, vous renoncez à votre propre liberté et à votre propre vie. Aux yeux du Dieu qui est aux cieux, existe-t-il une loi qui s'impose à un homme sans s'imposer à tous les autres? Si vous, ou tout autre qui voudrait spéculer sur ma personne et sur mes droits, désirez savoir comment je considère mes droits, il faudra vous déplacer jusqu'ici et porter la main sur moi pour me remettre en esclavage. » Frédéric Douglass pensait que la honte de l'esclavage ne devait pas retomber uniquement sur le Sud. La nation américaine tout entière en était complice. Le 4 juillet 1852, lors de la commémoration de l'indépendance, il prononça le discours suivant. Chers concitoyens, veuillez m'excuser et permettez-moi de vous demander pourquoi on me demande de parler aujourd'hui. Moi et tous ceux que je représente, avons-nous quoi que ce soit à voir avec votre indépendance nationale? Les grands principes de liberté politique et de justice naturelle inscrits dans cette déclaration d'indépendance nous concernent-ils? Et suis-je, dès lors, sommé d'apporter notre humble contribution sur l'autel national pour en reconnaître les bienfaits et exprimer notre gratitude dévouée pour les faveurs dont votre indépendance nous gratifie? Que peut bien signifier pour l'esclave américain votre 4 juillet? Pour moi, cette date souligne, plus encore que les autres jours de l'année, l'effroyable injustice et la terrible cruauté dont il est la victime permanente. Pour l'esclave, cette commémoration est une honte. Votre liberté fanfaronne, une liesse impie, votre grandeur nationale, une vanité boursouflée, vos cris de joie sont vides et de sens et de générosité. Vos dénonciations des tyrans sont d'une impudance éhontée, vos grands discours sur la liberté et l'égalité d'une ironie sans fond. Vos prières et vos hymnes, vos sermons, actions de grâce et toutes vos solennelles parades religieuses ne sont, pour l'esclave américain, que boursouflure, mensonge, duplicité, impiété et hypocrisie. Un très léger voile pour couvrir des crimes qui feraient honte à une nation de sauvages. Il n'est pas de nation au monde qui se rende plus coupable des pratiques plus choquantes et plus sanguinaires que le peuple des États-Unis à l'heure même où je parle. Allez où vous voudrez, cherchez où vous voudrez, errez à travers toutes les monarchies et les régimes despotiques du vieux monde. Voyagez à travers toute l'Amérique du Sud. Enquêtez sur les abus que l'on commet partout et, quand vous en aurez fini, mettez-les tous en regard de ce qui se pratique dans cette nation. Alors, vous conviendrez avec moi qu'en termes de barbarie révoltante et d'hypocrisie éhontée, l'Amérique est décidément sans rival. Dix ans après la révolte de Nat Turner, on ne percevait aucun signe d'une insurrection noire prochaine. Pourtant, en 1841, un incident se produisit qui allait nourrir l'esprit de révolte. Des esclaves embarqués à bord du bateau Le Créole s'emparèrent de l'équipage, tuant un marin et mirent le cap sur les Antilles britanniques, où l'esclavage avait été aboli en 1833. L'Angleterre refusant de rendre les esclaves, on protestait fort en Angleterre contre l'esclavage américain. On fit de longs discours au Congrès sur l'éventualité d'une guerre contre l'Angleterre, que souhaitait d'ailleurs le secrétaire d'État américain, Daniel Webster. Le Colored People Press dénonça l'attitude obtuse de Webster et, rappelant la guerre d'indépendance, tint les propos suivants. « Si la guerre devait être déclarée, combattrons-nous pour défendre un gouvernement qui nous refuse le plus précieux des droits du citoyen ? Les États dans lesquels nous vivons se sont offerts deux fois nos services et nous en ont récompensé par les chaînes de l'esclavage. Devrons-nous pour la troisième fois baiser les pieds de ceux qui nous écrasent? Si nous le faisons, c'est que nous méritons nos chaînes. À mesure que la tension augmentait, tant au nord qu'au sud, les Noirs se firent de plus en plus actifs. Frédéric Douglass déclarait en 1857 « Laissez-moi vous dire un mot sur la philosophie des réformes. L'histoire entière du progrès de la liberté humaine apporte la preuve que toutes les concessions faites jusqu'à ce jour, en son auguste nom, ont été imposées par la lutte. Sans lutte, pas de progrès. Ceux qui prétendent militer pour la liberté tout en condamnant l'activisme veulent semer sans d'abord labourer la terre. Ils veulent la pluie sans les éclairs et le tonnerre. Ils veulent l'océan sans le terrible grondement des flots. La lutte peut être d'ordre moral. Elle peut aussi être d'ordre physique ou les deux en même temps. Mais elle doit rester la lutte. Le pouvoir ne cède rien sans qu'on le lui impose. Il ne l'a jamais fait et ne le fera jamais. » Il existait des différences de stratégie entre Douglass et William Lloyd Garrison, abolitionniste blanc et directeur du Liberator. Des différences entre abolitionnistes blancs et abolitionnistes noirs en général. Les noirs étaient à la fois plus enclins à s'engager dans l'insurrection armée et plus prêts à utiliser tous les outils politiques existants. Les urnes, la constitution, etc. Bref, tout ce qui pouvait faire avancer leur cause. Ils n'étaient pas aussi moralement absolutistes que les garrisoniens, sachant que les questions d'éthique, à elles seules, ne suffiraient pas à faire avancer les choses. Les abolitionnistes blancs avaient fait un travail d'avant-garde courageux à la tribune, dans la presse et dans le chemin de fer souterrain. Les abolitionnistes noirs, moins médiatisés certes, constituaient cependant la véritable colonne vertébrale du mouvement anti-esclavagiste. Avant que Garrison ne fasse paraître son célèbre Liberator à Boston en 1831, la première convention nationale des Noirs avait déjà eu lieu. David Walker avait déjà rédigé son appel et un magazine abolitionniste noir, le Freedom's Journal, avait déjà paru. D'ailleurs, on comptait une majorité de Noirs parmi les 21 premiers abonnés du Liberator. Les Noirs devaient lutter en permanence contre le racisme inconscient des abolitionnistes blancs. Ils devaient également insister pour avoir droit à la parole. Douglass écrivit pour le Liberator jusqu'en 1847, date à laquelle il mit sur pied son propre journal à Rochester, le North Star, ce qui entraîna une rupture avec Garrison. En 1854, une assemblée de Noirs proclama « Il s'agit avant tout de notre combat. Personne d'autre ne peut lutter à notre place. Nos rapports avec le mouvement anti-esclavagiste doivent changer et ont déjà changé. Au lieu de dépendre de lui, nous devons le diriger. » Certaines femmes noires devaient supporter le triple fardeau d'être abolitionnistes dans une société esclavagiste, noires dans un milieu de réformateurs blancs et femmes dans un mouvement majoritairement dominé par les hommes. En 1853, lorsque Sojourner Truth se leva pour prendre la parole au cours de la 4e Convention nationale pour les droits des femmes qui se tenait à New York, ce triple fardeau pesait lourdement sur ses épaules. Elle déclara devant une foule hostile et bruyante, à la fois sarcastique et menaçante, « Je sais que cela semble un peu scandaleux de voir une femme de couleur se lever et vous parler de trucs au sujet des droits des femmes. Nous avons toutes été traînées plus bas que terre depuis si longtemps que personne ne pensait que nous nous relèverions un jour. Mais nous nous relèverons, et aujourd'hui je suis là. Nous obtiendrons nos droits. Essayez seulement de nous en empêcher. Vous ne pourrez pas nous en priver. Essayez toujours. Vous pouvez siffler autant que vous le voulez, mais cela viendra. Je suis assise parmi vous pour vous observer. Et à chaque fois que je voudrais vous dire exactement ce que je pense, je me lèverai. » Les économistes et les historiens statisticiens ont tenté de rendre compte de l'esclavage par l'analyse des budgets consacrés à la nourriture et aux soins d'un esclave. Mais cela peut-il témoigner de la réalité de l'esclavage telle que le vivait l'être humain qui le subissait ? Enfin, les conditions de l'esclavage ont-elles la même importance que l'existence de l'esclavage ? John Little, un ancien esclave, écrivait. Ils disent que les esclaves sont heureux parce qu'ils rient et qu'ils sont joyeux. J'ai moi-même reçu, avec trois autres de mes camarades, 200 coups de fouet en un seul jour. Et l'on m'a mis les fers aux pieds. Pourtant, le soir, nous pouvions danser, chanter et faire rire les autres avec le bruit de nos chaînes. Comme nous devions être heureux, n'est-ce pas ? En fait, nous ne le faisions que pour nous défouler et pour que nos cœurs ne soient pas brisés tout à fait. C'est aussi vrai que la parole de l'Évangile. Alors, n'étions-nous pas parfaitement heureux ? C'est pourtant vrai. Je l'ai fait. Oui, j'ai fait toutes sortes de cabrioles, malgré mes chaînes. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.